Nous nous éloignions du cloître. Servants et novices sortaient de l'église après la messe. Et alors que nous dépassions le côté occidental du temple, nous aperçûmes Béranger qui sortait de la porte du transept et traversait le cimetière, se dirigeant vers l'édifice. Guillaume le héla, l'autre s'arrêta, et nous le rejoignîmes. Il était encore plus bouleversé que lorsque nous l'avions vu dans le chœur, et Guillaume décida évidemment de profiter, comme il l'avait fait avec Bans, de son état d'âme. « Il semble donc que tu aies été le dernier à voir Adelme vivant, » lui dit-il. Béranger vacilla, comme sur le point de tomber en pâmoison.
« Moi ?»
demanda-t-il avec un filet de voix. Guillaume avait lancé sa question presque au hasard, probablement parce que Bans lui avait dit avoir vu les deux s'entretenir dans le cloître après vêpres. Mais il devait avoir visé juste, et d'évidence, Béranger pensait à une autre et vraiment ultime rencontre, parce qu'il commença à parler d'une voix brisée.
« Comment pouvez-vous dire cela? Moi, je l'ai vu avant d'aller me reposer comme tous les autres. »
Alors Guillaume décida qu'il valait la peine de ne pas lui laisser de répit. « Non, tu l'as vu encore, et tu sais plus de choses que tu ne le donnes à croire. Mais ici, deux morts sont désormais en jeu, et tu ne peux plus te taire. Tu sais fort bien qu'il y a mille façons pour délier la langue d'un homme. » Guillaume m'avait dit plusieurs fois que, même en tant qu'inquisiteur, il avait toujours répugné à utiliser la torture, mais Béranger le comprit mal, ou Guillaume voulait se faire mal comprendre. En tout cas, son jeu s'avéra efficace.
« Oui, oui !» dit Béranger en fondant en larmes. « J'ai vu Adelme ce soir-là, mais je le vis déjà mort !»«
Comment ?» interrogea Guillaume. « Au pied de l'escarpement ?»«
Non, non !» Je l'ai vu là, dans le cimetière. Il déambulait entre les tombes, larve parmi les larves. J'allais à sa rencontre et je m'aperçus aussitôt que je n'avais pas en face de moi un vivant. Son visage était celui d'un cadavre, ses yeux étaient déjà écarquillés sur les peines éternelles. Ce n'est naturellement que le lendemain matin, en apprenant sa mort, que je compris en avoir rencontré le fantôme. Mais à ce moment-là, déjà, je me rendis compte que j'avais une vision et que devant moi se trouvait une âme damnée, un lémur. Oh Seigneur ! Avec quelle voix sépulcrale il me parla !
Et que dit-il ?
Je suis damné ! Ainsi me dit-il. Tel que tu me vois, tu as devant toi un rescapé de l'enfer qui doit en enfer retourner. Ainsi me dit-il, et moi je lui criais : Adelme, tu viens vraiment de l'enfer ? Comment sont les peines en enfer ? Et je tremblais, car depuis peu, j'étais sorti de l'office de complice où j'avais entendu lire des pages terrifiantes sur l'ire du Seigneur. Et lui me dit « Les peines de l'enfer sont infiniment plus grandes que notre langue ne peut le dire. Vois-tu, dit-il, cette chape de sophisme dont j'ai été revêtu jusqu'à aujourd'hui, elle me pèse et m'écrase comme si j'avais la plus grande tour de Paris ou les montagnes du monde sur les épaules, et je ne pourrais jamais plus la déposer. » Et cette peine m'a été donnée par la divine justice pour ma vanité, pour avoir cru mon corps lieu de délice et pour avoir supposé en savoir plus que les autres, et pour avoir pris plaisir à des choses monstrueuses qui, caressées en imagination, ont produit des choses bien plus monstrueuses au-dedans de mon âme. Et maintenant, avec elles, je devrais vivre pour l'éternité, vois-tu ? Le plomb de cette chape est comme mille bras et feu ardent, et c'est le feu qui arde mon corps. Et cette peine m'échoua pour le péché malhonnête de la chair, dont le vice m'enflamma, et ce feu, or sans trêve, flambe et marde. Tends-moi la main, ô mon bon maître, me dit-il encore, afin que ma rencontre te soit enseignement utile et te rende en échange les nombreux enseignements dont tu me gratifias. Tends-moi la main, mon bon maître. Et il secoua le doigt de sa main qui brûlait, et une petite goutte de sa sueur tomba sur ma main, et j'eus l'impression qu'elle me trouait la main. Des jours durant, j'en portais la marque, mais je pris soin de la cacher à tous. Alors, il disparut parmi les tombes, et le lendemain matin, j'appris que ce corps qui m'avait si terrifié se trouvait déjà mort au pied des murailles.
Béranger haletait et pleurait. Guillaume lui demanda : Et comment se fait-il qu'il t'appelait son beau maître ? Vous aviez le même âge, tu lui avais peut-être enseigné quelque chose ? Béranger se cacha la tête en rabattant son capuchon sur sa face et tomba à genoux en embrassant les jambes de Guillaume.
« je ne sais pas pourquoi il m'appelait ainsi, je ne lui ai rien enseigné !»
Et il éclata en sanglots.
« J'ai peur, mon père, je veux me confesser à vous, miséricorde. Un diable me dévore les entrailles !»
Guillaume l'écarta et lui tendit la main pour le relever. « Non, Béranger, lui dit-il, ne me demande pas de te confesser. Ne clôt pas mes lèvres en ouvrant les tiennes. Ce que je veux savoir de toi, tu me le diras d'une autre manière. Et si tu ne me le dis pas, je le découvrirai par moi-même. Demande-moi miséricorde si tu veux, ne me demande pas le silence. Vous êtes trop nombreux à vous taire dans cette abbaye. Dis-moi plutôt, comment as-tu vu la pâleur de son visage s'il faisait nuit noire? Comment as-tu pu te brûler la main si c'était une nuit de pluie et de grêle et de neige fondue? Que faisais-tu dans le cimetière? Allons !» Et il le prit aux épaules, le secoua avec brutalité. « Dis-moi au moins cela !» Béranger tremblait de tous ses membres.
« Je ne sais pas ce que je faisais dans le cimetière. Je ne me rappelle pas. Je ne sais pourquoi. J'ai vu son visage. Peut-être avais-je une lampe. Non, c'est lui qui portait de la lumière. Une lanterne. Peut-être ai-je vu son visage à la lumière de la flamme. »
Comment pouvait-il circuler avec une lumière s'il pleuvait et neigeait?
C'était après Compli, sitôt après Compli. Il ne neigeait pas encore. Plus tard, il a commencé. Je me rappelle que les premières rafales commençaient à tomber, tandis que je m'enfuyais vers le dortoir. Je m'enfuyais vers le dortoir, dans la direction opposée à celle où allait le fantôme. Et puis, je ne sais plus rien. Je vous en prie, ne m'interrogez plus, si vous ne voulez pas me confesser.
« C'est bon, dit Guillaume. À présent, va, va dans le cœur, va parler avec le Seigneur, vu que tu ne veux pas parler avec les hommes, ou va te chercher un moine qui veuille bien écouter ta confession, parce que si depuis lors tu ne confesses pas tes péchés, tu t'es approché en sacrilège des sacrements. Va, nous nous reverrons. » Béranger disparut en un clin d'œil, et Guillaume se frotta les mains, comme je l'avais vu faire en maints autres cas où il était satisfait de quelque chose.
« Bien, dit-il, à présent beaucoup de choses deviennent claires. »«
Claires, maître ? Lui demandai-je. « Claires à présent qu'il nous faut compter aussi avec le fantôme d'Adelme ?»«
Cher Atso, dit Guillaume,
ce fantôme me semble fort peu fantomatique, et en tout cas, il récitait une page que j'ai déjà lue dans quelques livres à l'usage des prédicateurs. Ces moines lisent peut-être trop, et quand ils sont excités, ils revivent les visions qu'ils eurent dans les livres. » J'ignore si Adelme a réellement dit ces choses ou si Béranger les a entendues parce qu'il avait besoin de les entendre. C'est un fait que cette histoire confirme une série de mes suppositions. Par exemple, Adelme est mort suicidé, et l'histoire de Béranger nous dit que, avant de mourir, il circulait en proie à une grande excitation et au remords pour certaines choses qu'il avait commises. Il était excité et épouvanté par son péché, parce que quelqu'un l'avait épouvanté et lui avait raconté précisément l'épisode de l'apparition infernale qu'il a joué à Béranger avec une hallucinante maestria. Et il passait par le cimetière parce qu'il venait du cœur, où il s'était confié ou confessé à quelqu'un qui lui avait inspiré terreur et remords. Et du cimetière, il s'acheminait, comme nous l'a fait comprendre Béranger, dans la direction opposée au dortoir. Vers l'édifice donc, mais aussi, c'est possible, vers le mur d'enceinte derrière les sous, de là où j'ai déduit qu'il doit s'être jeté dans le précipice. Et il s'est jeté avant que ne survînt la tempête. Il est mort au pied du mur, et après seulement l'éboulement a entraîné son cadavre entre la tour septentrionale et la tour orientale. Mais la goutte de sueur enflammée, elle se trouvait déjà dans l'histoire que lui-même a entendue et a répétée, ou que Béranger s'est figuré dans son excitation et dans son remords. Parce qu'il y a, en antistrophe au remords d'Adelme, un remords de Béranger, tu l'as entendu. Et si Adelme venait du cœur, il portait peut-être un cierge, et la goutte sur la main de son ami n'était qu'une goutte de cire. Mais Béranger s'est senti brûlé bien davantage, parce qu'Adelme l'a certainement appelé son maître. Signe donc qu'Adelme lui reprochait de lui avoir appris quelque chose dont maintenant il se désespérait à mort. Et Béranger le sait. Il souffre car il sait qu'il a poussé Adelme à la mort en lui faisant faire quelque chose qu'il ne devait pas. Et il n'est pas difficile d'imaginer quoi, mon pauvre Atso. après ce que nous avons entendu sur notre aide bibliothécaire.
Je crois avoir compris ce qui s'est passé entre deux, dis-je en ayant honte de ma sagacité. Mais ne croyons-nous pas tous en un Dieu de miséricorde ?
Adèle, me vous dites, s'était probablement confessé.
Pourquoi a-t-il cherché à punir son premier péché par un péché, certes plus grand encore, ou au moins d'égale gravité ?
Parce que quelqu'un a proféré contre lui des mots de désespérance. J'ai dit que certaines pages de prédicateurs de notre époque doivent avoir suggéré à quelqu'un les paroles qui ont épouvanté Adelme et avec lesquelles Adelme a épouvanté Béranger. Jamais, comme en ces dernières années, les prédicateurs n'ont offert au peuple, pour en stimuler la piété et la terreur et la ferveur et la soumission à la loi humaine et divine, paroles si farouches, bouleversantes et macabres. Jamais, comme à notre époque, au milieu des processions de flagellants, on a entendu des hymnes sacrés inspirés aux seules douleurs de Christ et de la Vierge. Jamais, comme aujourd'hui, on a tant insisté pour stimuler la foi des gens simples sur l'évocation des tourments infernaux.
Peut-être est-ce besoin de pénitence, dis-je.
Atso, je n'ai jamais entendu autant d'appels à la pénitence qu'aujourd'hui, dans une période où désormais ni prédicateurs, ni évêques, et mes frères spirituels non plus, ne sont même à la hauteur pour promouvoir une vraie pénitence.
Mais le troisième âge, le pape angélique, le chapitre de Pérouse, dis-je désorienté.
Nostalgie. La grande époque de la pénitence est finie, et c'est pour cela que même le chapitre général de l'ordre peut parler de pénitence. Il y a eu, voilà 100 ou 200 ans, une grande vague de rénovation. Elle subsistait quand ceux qui en parlaient étaient brûlés, qu'ils fussent saints ou hérétiques. À présent, tous en parlent. En un certain sens, même le pape en discute. N'aie pas confiance dans les rénovations du genre humain quand en parlent les curies et les cours.
Mais Fradolcino, osais-je, curieux d'en savoir davantage sur ce nom que j'avais entendu prononcer plusieurs fois la veille.
Il est mort, et mal, comme il a vécu, parce que lui aussi est venu trop tard.
Et puis, qu'en sais-tu, toi ?
Rien, c'est pour cela que je vous demande.
Je préférerais n'en parler jamais. J'ai eu affaire à certains des soi-disant apôtres et je les ai observés de près.
Une triste histoire.
Elle te troublerait. De toute façon, elle m'a troublé moi et te troublerait davantage ma propre incapacité de juger.
C'est l'histoire d'un homme qui fit des choses insensées parce qu'il avait mis en pratique ce que lui avaient prêché de nombreux saints. À un certain point, je n'ai plus compris de qui était la faute. J'ai été comme obnubilé par un air de famille qui émanait des deux camps adverses, des saints qui prêchaient la pénitence et des pécheurs qui la mettaient en pratique, souvent aux frais d'autrui.
Mais je parlais d'autre chose, ou peut-être pas, je parlais toujours de ceci.
Fini l'époque de la pénitence. Pour les pénitents, le besoin de pénitence est devenu besoin de mort. Et ceux qui ont tué les pénitents devenus fous, en restituant la mort à la mort, pour vaincre la vraie pénitence qui produisait la mort, ont remplacé la pénitence de l'âme par une pénitence de l'imagination, un rappel à des visions surnaturelles de souffrance et de sang, les appelant « miroir de la vraie pénitence ».
Un miroir qui fait vivre au cours de leur vie, à l'imagination des simples et parfois des doctes aussi, les tourments de l'enfer, afin que, dit-on, personne ne pêche. Avec l'espoir de retenir les âmes sur la voie du péché grâce à la peur et le calcul de substituer à la rébellion la peur.
Mais vraiment ensuite ils ne pécheront pas ? Demandai-je anxieusement.
Cela dépend de ce que tu entends par péché, Atso, me dit le maître. Je ne voudrais pas être injuste avec les gens de ce pays où je vis depuis plusieurs années, mais il me semble qu'il est typique de la faible vertu des populations italiennes de ne pas pécher par crainte de quelque idole, tout saint qu'ils l'appellent. Ils ont plus peur de saint Sébastien ou de saint Antoine que de Christ. Si quelqu'un veut garder un endroit propre ici, pour qu'on ne pisse pas dessus, comme font les Italiens à la manière des chiens, il faut qu'il y peigne une image de saint Antoine avec la pointe d'un bâton, et cette image chassera ceux qui s'apprêtaient à pisser. Ainsi, les Italiens, et grâce à leurs prédicateurs, risquent de retourner aux antiques superstitions et ne croient plus à la résurrection de la chair. Ils n'ont qu'une peur bleue des blessures corporelles et des malheurs. C'est ainsi qu'ils craignent davantage saint Antoine que Christ.
Mais Béranger n'est pas italien, observai-je. Peu importe, je parle du climat que l'Église et les ordres prêcheurs ont répandu sur cette péninsule et qui d'ici se propage partout et atteint jusqu'à une vénérable abbaye de moines savants tels que ceux-ci. Mais si au moins il ne péchait pas, insistai-je, car j'étais disposé à ne me contenter même que de cela. Si cette abbaye était un speculum mundi, tu aurais déjà la réponse. Mais l'est-elle ? Demandai-je. Pour qu'il y ait miroir du monde, il faut que le monde ait une forme, conclut Guillaume, qui était par trop philosophe pour mon esprit d'adolescent.